Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, c'est avec François que je suis. François a 62 ans et je te remercie infiniment, François, d'avoir pris le temps de se faire ce petit mail. On a échangé quelques emails avant de trouver une date qui nous convenait. Mmh. Et tu es en face de moi. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'objet de ton mail qui était concis et qui était « J'ai 62 ans, je suis mariée depuis… » Tu m'avais précisé…
Mariée, pas depuis si longtemps que ça, mais enfin avec la même femme depuis 44 ans.
C'est ça, avec la même femme depuis 44 ans et amoureux et désirant.
Voilà.
Et ça, ça avait fait… C'est sorti de mes mails et je me suis dit « Ah, il est là, le témoignage que je voulais. » Donc, merci d'être là. Donc voilà, on a un peu dévoilé, mais voilà, tu es amoureux et désirant de ta femme depuis 44 ans. Donc ça, c'est pour les générations, pas forcément d'aujourd'hui, hein, même peut-être un peu plus âgées, ça reste quand même un mythe et un peu une quête aussi, parce que cet amour-là aussi fort pendant autant d'années… Alors, j'imagine que voilà, il y a eu aussi des hauts et des bas comme tous les couples et c'est normal. Mais waouh. Avant de parler de cette femme, je voulais te poser la question que je pose à tous les invités. Quel est ton tout premier souvenir qui est lié à l'érotisme ou la sexualité? Est-ce que tu t'en rappelles?
Je pense que le tout premier souvenir. Alors, je pense que l'érotisme est une chose structurante. Et il me semble que ma toute première interrogation, c'est sur justement la séduction, l'érotisme, c'est d'avoir vu ma mère enfiler des bas pour partir au théâtre quand je devais avoir 5-6 ans. Donc je me suis pas interrogé, mais bon, j'ai constaté un fait que je devais après interpréter. Ensuite, la question de la sexualité m'est venue par une première interrogation sur la reproduction. C'est-à-dire que mes parents m'avaient dit, tous les enfants posent la question de comment viennent les enfants.
C'est ça, maman, comment on fait les bébés.
Voilà, comment on fait les bébés. Donc mes parents m'avaient dit, les gens se marient et font des enfants. Donc sans rentrer dans le détail technique. Et du coup, je m'étais interrogé et je m'étais dit, mais c'est bizarre ce fait naturel, le fait d'avoir des enfants. Et alors, ce n'était pas dans ces termes-là, mais quand même, je ressentais le fait que le mariage était une institution créée par les hommes. Et je me disais, comment une chose comme ça peut déclencher une chose comme ça?
Oui, je comprends ce que tu veux dire.
Et donc ça, c'est ma deuxième interrogation. Mais enfin, bon, c'est vraiment…
Oui.
Ça ne m'habitait pas tous les matins. Et puis ensuite, très peu de… Alors, je n'ai pas eu d'amour d'enfant. Enfin, si, mais pas d'enfant très jeune. Pas jusqu'à… disons que les prémices d'une sexualité qui s'éveille, c'est vers 10-11 ans, on va dire.
Oui, ce qu'on dit pré-ado maintenant.
Pré-ado.
Ouais.
Donc, dans l'enfance, non. Vraiment pas. Quand même, un premier jeu avec ma cousine, sans doute, alors les âges, pour mettre des âges dessus, mais sans doute à l'âge de 5-6 ans, pour explorer nos corps.
Le fameux
donc
docteur.
Le jeu, voilà, on joue au docteur. Et d'ailleurs, j'y ai repensé et j'ai réalisé tout d'un coup que dans ce jeu de rôle, il y avait un docteur, c'était moi.
Mmh.
Et
la patiente,
et la patiente qui se laissait explorer, c'était ma cousine.
Mmh.
Donc, c'est là où on voit qu'il y a des rôles qui s'installent. Et donc, ça, c'est bon, mais on ne peut pas dire que c'est la sexualité, c'est la découverte du corps de la fille, quoi. Et puis après, alors, la sexualité, à proprement parler, je l'ai découverte par oui dire à l'âge de 10-11 ans, c'est-à-dire que j'étais dans un camp de vacances, un VVF, un camp de vacances collectif avec ma mère. Mon père est mort quand j'avais 11 ans. Donc, Et là, il y avait une bande de gamins, et puis le soir, ça discutait, puis ça discutait des filles, et puis un soir, ils discutaient sur un garçon un peu plus âgé qui avait qui était sorti, comme on disait pas à l'époque, mais avec une fille de son âge, il devait avoir 14 ans, et il avait été dit qu'ils avaient été jusqu'au coït. Je savais pas ce que c'était que le coït, enfin, je l'ai compris, mm-hmm. je l'ai compris, puis j'ai trouvé ce mot bizarre. Bizarre, car presque imprononçable, ressemblant pas à du français, et je le trouvais. Alors, il y avait deux expressions qui sont sorties ce soir-là. C'était est-ce que, alors, dans les flirts avec les filles, c'était est-ce que tu lui as mis la main au panier ou pas.
Chic.
Et puis, l'expression que je découvrais, et puis ce fameux mot de coït que je découvrais, donc à l'âge de 11-12 ans. Mm-hmm. Alors après toute mon adolescence, on peut dire qu'elle a été relativement asexualisée. J'étais volontiers amoureux des filles, enfin, je les aimais bien, j'étais beaucoup avec les filles, j'appréciais leur compagnie, mais ça ne prenait pas la forme d'un désir sexuel, on ne peut pas dire.
Ça a toujours été les filles, il n'y a pas une question avec les garçons qui s'est posée à un moment donné ?
Non, jamais.
Jamais ?
Non, jamais. J'ai été sollicité par des garçons homosexuels, mais c'était complètement en dehors de toute envie et tout fantasme. C'était, mm-hmm. Ça m'était totalement étranger. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, je disais que j'étais volontiers amoureux. Mm-hmm. Voilà, j'étais volontiers amoureux. J'ai eu mon meilleur ami au lycée, c'était une fille. Mm-hmm. On était beaucoup ensemble, on parlait constamment, on était constamment au café ensemble, mais ça n'a jamais pris ce versant-là. Alors que c'était bizarre parce que je faisais quand même partie un petit peu des affranchis du lycée. C'était les années 70, il y avait une grève tous les ans, on partait en manif, j'étais en banlieue, hein. on allait manifester à. Bon, avec. C'était la grande époque du gauchisme. Voilà, c'était Pierre Auvernet, c'était un gars qui s'était fait d'ailleurs énucléer par une grenade de la police à l'époque qui avait déclenché une manif de 30 000 personnes le lendemain. Enfin bon, c'était une chose qui serait inimaginable aujourd'hui. Et donc je faisais partie plutôt des gens affranchis du lycée, je faisais partie des meneurs de mon lycée, mais pas sur ce plan-là.
D'accord.
Pas sur ce
tout
plan-là.
Ce qu'on appelle le bon copain. Il y a une expression hein, qui, chez les plus jeunes qui s'appelle la friend zone. Tu restes dans la zone du bon copain.
Oui, oui, oui. Oui.
Et ouais, c'est ça.
Bon, ça me faisait envie. Ça me faisait envie, mais je ne trouvais pas le moyen. Et puis alors ça, c'est aussi alors, quelque chose qui a été constant avec moi. J'ai toujours été dans la position de... Je crée une proximité, mais j'attendais aussi des filles et des femmes ensuite... qu'elles fassent le pas ou le geste mm-hmm. ou le signal qui permettent d'aller plus loin. J'ai toujours refusé d'empiéter sur la capacité d'acquiescement mm-hmm. de la personne en face de laquelle j'étais.
Le fameux consentement.
Le fameux consentement. Mm-hmm. Voilà. Et ça m'a sans doute interdit beaucoup de relations sexuelles. Avec des femmes que j'aurais pu fréquenter, mais c'est comme ça. Et puis j'étais comme ça, je suis resté comme ça.
Ok, donc ça c'est jusqu'au lycée.
Jusqu'au lycée, l'été du bac, avec ma copine, on a un rendez-vous. Bon, je partais à Montpellier, elle restait ici. On a une soirée. Alors ça, c'est exactement ce que je te décris là, une soirée qui n'en finit pas. Je suis dans son appart, elle s'était trouvé un petit appart dans le rue Mouffetard. Et ben, quand il est 1h du matin, soit elle m'invite à quelque chose, soit il est en
retard. Tu rentres à la maison.
Voilà. Et donc elle m'a invité à rien. Et pourtant, on avait passé 3 ans ensemble à se voir constamment.
D'accord.
Donc elle avait-elle fait un choix ou pas ? J'en sais rien.
Vous n'en avez jamais parlé ?
Je l'ai revue. Alors je l'avais revue, on va dire, 6-7 ans après, comme ça, on n'a pas reparlé, et je l'ai revue il y a un an, mais on n'en pas reparlé.
D'accord. Oui, après, c'est... les années ça sont vient, passées.
Oui, ça devient un peu lointain.
Oui, et puis c'est un peu obsessionnel. Tu te rappelles, Rue Mouffetard. D'accord, donc tu passes ton baccalauréat.
Je pars à Montpellier.
Et tu pars à Montpellier faire tes études.
Voilà. Et okay. Donc, j'arrive en septembre, j'arrive avec ma valise, littéralement, je sonne dans un café, je demande où est-ce qu'il y a des chambres à louer, moi, avec une, je la loue.
Oh, la belle vie.
La belle vie, non, mais les choses étaient tellement simples.
Ah oui, ça a l'air.
Pas de téléphone portable, ma mère ne savait pas où j'étais, je lui ai écrit 15 jours après. Trois jours, on avait les inscriptions, on partait avec son bac papier en poche.
Le certificat.
On allait au secrétariat, on s'inscrivait, là où on avait décidé de s'inscrire, on était inscrit. Et trois jours après, c'était le premier cours en amphi. Et je m'installe. Bon, c'était un gros amphi. J'étais en biologie. Il devait bien avoir 400 étudiants. Et puis, bon, tout le monde s'installe. Je m'installe un peu en haut l'amphi. Je regarde tous ces gens que je vois de dos, donc je vois personne. Le prof commence à parler. Puis, il y a une fille qui arrive en retard, puis qui descend tout l'amphi. Puis, je la regarde. Puis, je dis, mais... puis elle regarde un peu où s'installer. Puis, elle regardait les gens d'un air un petit peu condescendant. Je veux dire, elle dit non, c'est le studial, elle se prend pas dans la merde. Et j'ai dit, je vais aller lui parler à l'intercours. Enfin bon, et c'était Evelyne, ma femme.
Waouh. Donc tu rencontres Evelyne en première année de fac.
En première année, attends. J'ai fait, je l'ai raccompagnée en bus, on était en bus, pendant au moins 3 mois.
D'accord.
Avant que...
Vous décidiez...
Et en fait, c'était elle qui a fait le pas.
D'accord.
Parce
bravo
que...
Evelyne.
Oui, bravo Evelyne, parce que sans ça, qu'est-ce que serais-je devenu? Bon, il y avait des copains qui avaient organisé une fête dans les Cévennes, et puis tout le monde nous voyait toujours ensemble.
Et donc, vous étiez parti sur une relation amicale au début?
Non, c'était plus qu'amicale.
Toi, t'étais dans la séduction avec
ça,
elle.
Sa sœur était venue, elle avait dit, mais il est bizarre ce mec-là, pourquoi est-ce qu'il reste si longtemps chez toi? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis, bon, elle me laissait passer du temps chez elle.
Oui, elle aimait ta compagnie.
Elle aimait ma compagnie. Et puis, il nous avait invités, puis il nous avait laissé une chambre avec un grand lit, et puis on s'est installé dans le grand lit.
Oui, donc les gens, vous voyez quand même comme un couple. Enfin,
un couple en formation,
un couple,
une histoire qui était visible. Et c'est elle qui a été à l'initiative cette nuit-là.
D'accord. Elle avait eu, elle, de son côté, déjà de l'expérience ou...
Oui.
Oui.
Oui, mais pas énorme.
Oui,
hein. Elle avait 2 ans de plus que moi. Mm-hmm. Elle avait arrêté la fac. Bon, il y avait eu des difficultés familiales. Elle avait un copain à l'époque, mais il était parisien. Et puis, elle était venue à Montpellier.
Oui.
Bon, elle n'avait pas plus que ça le désir de maintenir avec lui.
D'accord. Donc là, vous commencez votre histoire.
Oui.
Et tout de suite, c'est comment ce début de vie sexuelle avec Evelyne pour toi? C'est une révélation?
Alors,
c'est décevant?
Non, c'est pas décevant du tout. Alors si, il y a une chose qu'il faut que je dise, puisqu'il faut tout dire, c'est que... Alors on va revenir un petit peu en arrière.
D'accord.
Parce qu'il y a... Bon, partie de la vie sexuelle qui est la masturbation.
Ah, bien sûr, qui est la tienne à toi.
Et qui démarre souvent
puberté.
À la puberté. Mm-hmm. Alors moi, j'ai eu des premières érections quand j'étais en classe, quand on est assis sur une chaise bien dure. Au bout de 2 heures, quelquefois, on a une érection involontaire.
Ok, mécanique.
Mécanique, pas agréable, presque douloureuse, qui oblige de faire de la place dans son pantalon et tout. Et je trouvais ça, bon, je savais ce que c'était. Et par contre, je ne me suis absolument jamais masturbé pour du plaisir. J'ai bien essayé une ou deux fois, puisque c'est une des manières de se donner du plaisir.
Bien
et
sûr.
Ça ne m'a jamais
d'accord.
donné de plaisir.
Donc c'était plus mécanique pour soulager qu'autre chose?
Ah non, mais je ne me...
Même
je,
pas, d'accord.
C'était des érections qui venaient, qui retombaient. Mais je ne me suis jamais masturbé, sauf une ou deux fois. Je me suis dit, bon, il faudrait quand même que j'essaye pour voir si ça,
quand même.
S'il y a quelque chose... Je n'arrivais à rien, c'est toujours ça chiant, et puis j'ai arrêté et j'ai jamais retenté. Alors, bon, voilà, de la masturbation qui va jusqu'à une éjaculation. Alors, un jour, j'ai été sollicité par une copine pour être donneur de sperme, et je suis allé dans...
Une amie à toi qui voulait un enfant?
Oui, oui.
Ah,
bon,
oui.
Mais Et je suis allé dans un centre
une banque de sperme.
De don de sperme, et il fallait se masturber et mettre du sperme dans. Mais impossible pour moi. Alors l'infirmière m'a dit prenez, elle m'avait donné une revue, là, prenez un petit truc, vous ferez ça chez vous, et mais pas plus. Donc j'avais arrêté, et puis voilà. Donc pour dire que même les sexualités masculines sont assez...
Ah oui, bien sûr, elles sont diverses, variées. Entre des hommes, il y en a eu à ce micro, qui peuvent se masturber jusqu'à 6 à 7 fois par jour, et d'autres qui, comme toi, n'y trouvent pas de plaisir et pas d'intérêt. Enfin, c'est extraordinaire de voir la différence qu'il y a entre les hommes. Et c'est vrai que nous, les femmes, on ne le sait pas, et les hommes entre eux ne le savent pas toujours parce qu'ils n'en parlent pas forcément. Donc, c'est ça qui est intéressant de se dire. OK, donc on a fait ce petit retour en arrière. Donc là, on retrouve Evelyne, cette première fois avec elle.
Alors, cette première fois avec elle, mais je voulais revenir sur juste avant, où j'avais décidé, parce que j'étais encore puceau, d'une certaine manière, je me suis dit, il faut quand même que...
Donc là, t'es quoi ? Tu viens de passer le bac à ce moment-là ?
J'ai passé mon bac à 17 ans, mais trois mois après, j'avais 18 ans. Donc, j'avais 18 ans et demi. Et je suis allé voir une prostituée, parce qu'il y avait quelques prostituées qui étaient assez jolies à Montpellier. Donc, elles m'ont pris sous leur aile. Elles m'ont dit, le genre du petit garçon qui vient.
Le client parfait.
Le client qui ne va pas me faire de mal. Et donc, mais bon, c'était tellement anti-érotique que je ne suis arrivé à rien et que je suis reparti un peu bêné.
Et donc avec la volonté de te faire dépuceler par une prostituée à ce moment-là, t'avais envie. C'était pourquoi ? Parce que
je ne sais plus parce que j'aurais fort bien pu attendre. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Parce que franchement, je ne sais pas.
C'est quoi ? C'est parce que tes copains parlaient de leur première fois ? C'est parce que tu te sentais toi ?
C'était même pas un enjeu par rapport aux copains, parce que j'étais plutôt dans un milieu où on parlait d'autre chose que de ça.
J'imagine de la curiosité.
La curiosité, voilà, pour savoir ce que ce serait.
D'accord. Et donc, tu vois ces prostituées, ça doit être assez différent et peu ordinaire, cette situation où tu les vois, et donc tu commences à discuter avec elles, et finalement...
C'est très simple, on lui demande le prix, on monte, et puis ça se fait... Ça se fait vraiment très simplement. Il faut juste se décider. C'est comme de sauter dans une piscine. C'est une fois qu'on a essayé de sauter, c'est pas compliqué. Et puis après, alors ce qui est bizarre, c'est que des choses qu'on ne fait plus après, elles se lavent.
Oui.
Elles te demandent de te laver également. Et donc, bon, déjà, t'es...
oui, ça casse un peu
le mystère. L'ambiance. Et puis, elle est super, super pro. Elle fait ça. Il faut que ça aille vite. Ben oui. Et puis toi, tu n'es pas du tout dans le mode, donc ça ne va pas du tout. Donc, le pauvre garçon rentre chez lui, mais ça ne m'a pas plus traumatisé que ça. Je me suis dit, c'est pas comme ça que ça va se faire.
Oui.
Et puis, les choses sont faites très naturellement. Et puis après, on a eu une sexualité facile.
Avec Evelyne.
Avec Evelyne, qui nous a donné du plaisir. Pour te dire, il y a des nuits dont je me souviens encore.
Waouh ! Des nuits quand vous étiez étudiant ?
Oui.
Ah oui ?
Des nuits donc de 76.
Waouh ! Bonne mémoire, François.
Voilà, mais elles m'ont marqué.
Oui, elle devait être, ça devait être extraordinaire. D'accord, waouh !
Et bien sûr, on a des performances sexuelles qui sont plus importantes à 19 ans ou 18 ans, même pas 19 ans, 18 ans. Donc, c'est l'acmé du...
Tu n'as pas la même, effectivement, santé.
Mais, par exemple, de faire l'amour toute une nuit, plusieurs, deux, trois, quatre fois de suite. De suite, interrompu.
Oui,
passer des nuits à discuter, des nuits à parler. Et puis, on faisait... Après, ça disparaît. Mais c'est cette entrée en matière-là que j'ai connue.
Ah ouais, très belle entrée en matière, en tout cas.
Oui.
Et donc, cette sexualité... se passe sur votre période universitaire ?
Oui, alors...
Vous vivez ensemble à ce moment-là ? Comment vous...
Très vite.
Très vite ?
Oui, très vite. Elle avait une chambre en CTU la première année, puis elle larguait en l'été. Et puis, je pense que 5-6 mois après, je l'ai présentée à ma mère qui est venue à Montpellier, puis on a fait un petit tour dans les Cévennes avec elle en voiture, et puis voilà, elle la connaissait.
Donc là, c'était la présentation officielle.
Oui.
OK. Donc, vous continuez vos études ensemble, vous...
Alors, on continue nos études ensemble à Montpellier. On en part au bout de 2 ans. Ça ne dure pas très longtemps. Au bout de la deuxième année, on monte à Paris. Mm-hmm. Et là, ça devient plus hard parce que, d'une part, à premier temps, on est dans une chambre sous les toits, donc avec les toilettes sur le palier, tout ça. Et puis, c'était plus Montpellier. C'est-à-dire que moi, j'étais à Orsay. Il fallait que je prenne le RER. C'était loin, je rentrais. Et puis, une sorte de magie qui a un petit peu disparu. Donc, ça n'a pas été très, très heureux, même si je pense... Alors, je ne me souviens plus. Je ne fais pas forcément après le lien entre les expériences, mm-hmm. enfin, les relations sexuelles qu'on avait et le mood dans lequel on était. Mm-hmm. Mais je me souviens plus de l'atmosphère, puisqu'en fin de compte, ce que je te raconte là, c'est plus l'histoire d'un couple mm-hmm. que l'histoire d'une sexualité, puisque c'est une sexualité dans un couple quasi
exactement.
Exclusivement.
Mais c'est ça qui est très intéressant aussi. C'est d'avoir réussi à garder cette sexualité qu'après, on y a eu encore, mais heureux.
Deux exceptions.
D'accord.
Une exception tout à fait anecdotique.
Quand tu dis exception, tu dis quoi ?
En dehors de cette relation à l'intérieur du couple. Mm-hmm. Donc, on ne s'est pas marié tout de suite. Hein. On n'était pas dans l'idée de... Alors, on n'était pas du tout dans l'idée qui s'obligeait à la fidélité.
D'accord. Dès le départ ?
On n'en a jamais parlé.
D'accord.
Mais c'était sous-entendu. On s'est marié au bout de 20 ans. Mm-hmm. On avait eu déjà nos 2 enfants. Vraiment que pour des histoires d'impôts. Alors, c'est compliqué parce qu'on non plus, on ne s'est pas donné une liberté d'aller comme on voulait, où on voulait.
D'accord. Mais vous n'êtes pas empêché.
Mais on ne s'est pas empêché. Et Evelyne a eu 1 ou 2 aventures, et moi, 1 ou 2, à tel point... Alors, je te raconte... Les miennes, en fin de compte, ça balaye toute une vie. Non, je vais terminer par les miennes. Je vais commencer par les siennes parce que les miennes seront plus longues à raconter parce que j'en sais plus que sur les siennes.
J'imagine.
Alors, quand même, il y a eu un épisode où j'ai dû faire les trois jours avant d'être incorporé, donc où j'ai été réformé parce que j'y voyais rien, donc ils ont eu peur que je leur tire dessus.
On parle de service militaire pour service les gens militaire, qui ne comprendront pas.
Mais j'étais parti pour 3 jours. Mm-hmm. Et je suis rentré à la fin de la journée, ce qui n'était pas du tout prévu. Et Evelyne, semble-t-il, elle me l'a dit il y a une dizaine d'années, a été très surprise de m'entendre appeler alors que j'étais... Mais elle m'a dit après qu'elle était avec un copain.
Un copain.
Mais okay. Je n'en ai jamais demandé plus.
D'accord.
Et puis après, elle a eu, à part celle que je ne connais pas, mais enfin bon, comme on était tellement tout le temps ensemble que j'imagine qu'il n'y en a pas eu beaucoup que je n'ai pas pu connaître. Mm-hmm. Mais en tout cas, il y en a une autre que j'ai connue où elle m'a dit qu'elle avait rencontré un mec qui lui plaisait bien, que je n'ai pas rencontré puisque c'était une occasion où je n'étais pas. Alors, je ne me souviens plus de ce qu'il y avait, le concours de circonstances qui avait permis ça. Mais en tout cas, ça ne devait pas aller très très fort.
Entre vous ?
Entre nous.
Et alors, ces moments où ça n'allait pas très très fort, c'était, tu arrives à peu près à les identifier ? Est-ce que c'était après les enfants, avant les enfants ? C'était lié au travail ?
Il y a une chose qu'on ferait que je parle. Non, c'est...
C'était l'individu qui...
C'est le désir.
D'accord.
Parce que pour moi, le couple, c'est une histoire de désir. Et donc, quand le désir retombe, tout le reste prend le pas et donc le reste est un encombrement dans une relation. Donc, c'est pas de se faire à manger ensemble qui est un plaisir. Ça peut être un plaisir, mais une fois, deux fois, mais 365 fois, c'est beaucoup. Mm-hmm. Donc, j'imagine que c'était pas au plus haut, mais enfin, sans que ce soit, on ne sait. C'est marrant parce qu'en parlant, il y a des choses qui arrivent.
J'imagine.
Et on s'est rarement disputé, mais on s'est quelquefois disputé. Mais pour des bêtises. pourquoi tu ne me parles pas, dis-moi à quoi tu penses, je ne comprends pas pourquoi tu ne me parles pas. Enfin,
c'est l'accumulation de petites choses.
Un énervement. Et puis, je me souviens qu'une fois, elle était venue à m'attraper, à me déchirer ma chemise. Et puis, après cette crise, on est tombés dans les bras l'un de l'autre et on a fait l'amour. Mais
réconcilier
toute cette agressivité qui était là. Mais bon, je reviens à cette histoire. Et j'avais pris conscience qu'elle avait rencontré quelqu'un, qu'elle était contente. Et puis un jour, elle m'a dit, oh, il refait une fête. Ben, écoute, je lui dis. Alors, on avait une copine, on avait une bonne copine qu'on voit toujours, puis qu'on voyait beaucoup. Et puis, elle devait quitter une fête à laquelle on était chez cette copine. Et puis, je lui dis, écoute, je vais emmener Evelyne parce qu'il faut qu'elle aille voir. Elle va aller dans une fête. Elle a rencontré un mec. Et puis, je l'ai emmenée.
C'est assez étonnant.
C'est étonnant. En fait, si tu veux, je savais qu'il ne fallait pas que je réfrène le plaisir qu'elle pourrait prendre à avoir une relation en dehors de ce couple.
Extra-conjugal. Et ça ne t'a pas fait peur pour votre
Absolument
couple.
Pas.
Jamais. Ok.
Absolument pas. Où j'étais prêt à défier le danger. Je me suis dit. Soyons forts, si c'est un danger, affrontons-le et puis on verra bien ce qui se passe.
Courageux.
Non, parce que avoir fait l'inverse aurait été...
Tu aurais pu mettre un mouchoir dessus.
Oui,
j'aurais pu...
Et d'ailleurs, et cette copine qu'on connaît très bien m'a dit, mais j'étais complètement défaite ce soir-là en voyant ce qui se passait.
Je peux comprendre, parce que c'est étonnant d'être aussi en phase avec sa moitié et lui dire, et assumer l'idée de l'accompagner là où elle va retrouver son amant.
Oui.
C'est dit comme ça, ça fait un chouette film, tu vois.
Oui, ça fait presque un scénario. Et donc je l'emmène, et puis de fait, il ne s'est rien passé.
Tu es resté avec elle sur cette...
Non, j'ai juste posé en bas et je suis reparti.
D'accord. Evelyne, dans ces cas-là, était comment ? Est-ce qu'il y avait un peu de gêne ?
C'était du non-dit. Je le savais parfaitement.
Elle savait que tu savais ?
Elle savait que je savais, mais on restait dans le non-dit.
D'accord.
Et donc, après, on n'a plus reparlé. Bien après.
Oui.
Dans un couple, il y a une expérience, et dans la relation sexuelle d'un couple, il y a une expérience qui est une expérience forte, importante, mais dangereuse, c'est la naissance d'un enfant. Mm-hmm. Parce que, évidemment, cette femme qui jusqu'à présent était uniquement, un objet de désir, du coup, reste un objet de désir pendant la grossesse, puisqu'on a fait l'amour pendant qu'elle était enceinte, c'est pas un problème. Mais à l'accouchement, il se passe quand même une chose, c'est-à-dire que ce trou qu'on n'a jamais vraiment envisagé comme étant un lieu du plaisir devient. Alors, elle a eu des accouchements très difficiles. Mm-hmm. Le premier avec forceps, le second avec épisiotomie. Une sorte de règle s'était établie que les pères devaient être là, à voir ça. Et moi, j'ai trouvé ça très traumatisant et dangereux pour la sexualité ultérieure, parce que y a une image qui s'impose après, c'est de ce trou qui devient carrément autre chose.
Complètement déformé.
Complètement déformé, qui n'est plus la même chose, quoi. Mm-hmm. Et alors, j'imagine que c'est déjà une épreuve pour la femme. C'est traumatisant quand même, même si le traumatisme s'efface et on en réchappe, c'est pas gravissime, mais c'est une image qui est là et puis Et alors pour le deuxième, je suis sorti parce que pour une épisiotomie, ils m'ont fait sortir. Mais il n'empêche que...
Ça a été compliqué après ?
Je l'ai ressenti. J'ai ressenti que j'aurais mieux fait de ne pas l'avoir vue. On ne reprend pas une sexualité identique immédiatement. Hein. Il se passe quelques mois. Il faut dire une chose, c'est que dans une sexualité au long cours, le rythme des rapports sexuels s'espace. Mm-hmm. Alors, nous, on n'a jamais eu une sexualité effrénée. Hein, donc, je pense qu'au top de la fréquence de nos rapports sexuels, c'était un petit peu plus peut-être qu'une fois par semaine. Mmh. Et puis Ça a été, alors on rentre dans le chapitre des statistiques, après je me souviens plus. Alors je me souviens qu'il y a eu une période de quasi-abstinence qui a duré quasiment un an.
D'accord. Vous en discutiez ? Ou c'était pareil
C'est difficile à dire, et aujourd'hui je ne sais plus trop pourquoi on n'en a pas plus discuté, parce que maintenant on en discute plus facilement. Mais en fait, on a traversé des moments assez difficiles, mais on est resté ensemble. Et c'est... Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas rencontré les gens qui nous auraient fait nous quitter ? Mais on est resté ensemble, et puis après, on a eu... Les choses se sont raccommodées, enfin, se sont...
D'elles-mêmes, se sont...
D'elles-mêmes, voilà, ouais. Spontanément. Mais pour dire que dans 44 ans de vie sexuelle, il peut y avoir
oui.
Des trous.
Bien sûr. Des moments moins...
Des moments où le besoin n'est plus là parce que je pense pas que le boulot puisse être une explication, mais boulot peut être un substitut.
Un facteur, oui, bien sûr.
Un substitut.
D'accord.
Mais n'explique pas. Et puis c'est vrai qu'une vie de famille qui s'installe avec les jeunes enfants, il y a des plaisirs qui s'installent, qui prennent aussi un peu, parce que des enfants, ça prend énormément de temps. Mmh. Donc, voilà. Ça. Et puis, voilà, quand on est parisien, qu'on a des enfants qui sont dans la pièce juste à côté, ça ne facilite pas, voilà, toute chose. Mais bon, rien qui a été destructeur, quoi.
Rien
qui n'a été destructeur.
En tout cas, vous avez fait face à ça.
On a fait face à ça. Et on a... eu une sexualité qui est redevenue vraiment heureuse après, et intense, je dirais, après la naissance de notre fille, notre deuxième enfant. Et alors avant, puisqu'il faut parler de sexualité, plus quand même de cette histoire de ce couple.
Oui, mais c'est lié, donc
c'est lié.
Ça marche aussi.
Et je me souviens qu'on faisait... des voyages, enfin on a fait des voyages, on s'est baladé au Maroc, en deux chevaux et tout ça, et que j'ai été toujours pris beaucoup de plaisir à donner du plaisir. Mm-hmm. Et c'est resté pour moi un des plaisirs du sexe, c'est de donner du plaisir. Et je me souviens qu'au Maroc, on se baladait, elle était assise, je conduisais, elle ne conduisait pas. Et je mettais ma main sous sa jupe et je la caressais jusqu'à ce qu'elle jouisse. Et c'était pour moi un plaisir absolu. Voilà, ça c'était notre sexualité avant le mariage. Mm-hmm. Après le mariage aussi, ça a duré. Bon, puis elle est devenue... il y a, je crois, un retrait un petit peu de la libido. Alors, je ne vais pas dire chez les femmes, en tout cas chez cette femme, qui fait que des choses qui étaient possibles à 20, 30, même 40, sont plus difficiles aujourd'hui.
Mm-hmm. Est-ce que tu penses que c'est un rapport avec elle-même, son corps ou...
Alors ça, je ne sais pas. Il faudrait lui poser la question. Je pense que c'est vraiment la libido, c'est-à-dire que le désir du plaisir, mm-hmm, est moins intense, qui autorisait... de franchir des barrières qu'on pourrait, pas morales, mais des barrières, oui, de quasiment de bienséance, de ce qui ne se fait pas, ou de, voilà, être en voiture à la limite du risque du regard de la voiture, oui, qui, oui, nous croise. Si c'était un obstacle qu'elle franchissait, qu'elle ne franchit plus, par exemple.
Mais après, oui, pour tourner au Maroc sur la même route, hein, peut-être.
Au Maroc sur les mêmes routes avec aussi peu de vitesse.
Parce que c'est sûr que là, les embouteillages... C'est compliqué.
Non, mais il y a encore des parcours en voiture où il n'y a personne et où ce serait...
Evelyne, et hop, en voiture.
Evelyne en voiture. Mais je tente encore ma chance.
Mais tu as raison, je pense aussi que c'est ça qui... C'est que tu gardes aussi cette âme-là de joueur, de jeune homme, qui peut-être aussi permet de nourrir encore votre sexualité.
Ah bah bien sûr, oui. Non, mais de toute façon, c'est mon... Alors là, on reparle de ma sexualité d'aujourd'hui. Mm-hmm. Ma sexualité d'aujourd'hui, c'est... C'est un homme désirant et confronté à une frustration constante, puisque la sexualité, c'est l'histoire d'une frustration constante qui, quelquefois, s'évanouit, mais qui reprend tellement vite après qu'on on reste encore dans une frustration qui va croissant. Et d'ailleurs, ma femme le sait très bien, parce qu'elle sait qu'à un moment donné, si je suis, s'il y a trop de temps qui se passe, je deviens de mauvaise humeur, bougon.
Tu as vraiment senti ça, la séparation de vos libidos? En tout cas, vous n'êtes plus sur la même intensité d'envie?
Oui.
Et ça, il y a eu des moments de synchronisation parfaite.
Oui, oui.
Il y en a eu.
Oui, oui, oui. Bah, jusqu'à ce que... Alors attends, 96, 55, donc jusqu'à la 40e année.
D'accord.
On va dire 43 ans, 44 ans. Alors, ce n'est pas une histoire de ménopause, parce qu'elle a été ménopausée beaucoup plus tard, 10 ans plus tard.
Autour, en tout cas, de ses 45 ans, c'est là où tu as senti qu'il y a une baisse de son côté.
Mais ce n'est pas une marche, mais c'est progressif. Mm-hmm. Des choses qui étaient possibles, petit à petit, n'ont plus été. Mm-hmm. Tu vois, par exemple, elle était journaliste et moi, j'étais architecte. Pendant un temps, on a travaillé ensemble, dans le même bureau. Mm-hmm. Et puis, justement, quand on avait dans les 40 ans, et le bureau était au fond du jardin. Donc, tu vois, on a toujours été travailleurs indépendants. On ne s'est jamais quitté d'une semelle, d'une certaine manière. Donc, c'est la promiscuité absolue. C'est l'enfer pour certains, mais pour nous, ce n'était pas l'enfer. Et alors, je me souviens que quand on est tournant des années 2000, on était dans notre bureau, là, en bas, tous les deux, tranquilles. Et puis, je lui montrais un truc c'était tout début d'Internet, donc je lui montrais un truc sur Internet que j'avais découvert. Et puis, elle s'asseyait, puis je la faisais asseoir sur mes genoux, et puis c'était parti. Et puis, on remontait dans la chambre, j'avais la main dans sa culotte tout en train de faire le jardin. Et dans l'escalier, c'était déjà débridé. Donc... tu vois, ça, c'est des choses qui ont été possibles jusqu'à ce qu'on ait 45 ans.
Ok.
Et puis qu'ils l'ont été beaucoup moins. Mais bon, de toute façon, j'admets ses limites, je les respecte. Et puis,
mais tu tentes.
Et je tente encore ma chance. Et puis je me fais des films la nuit en pensant à ce qu'on se faisait quand on était... Oui, je me fais aussi quelques films.
Et on parlait, tu as parlé des amants d'Evelyne, en tout cas des copains qu'elle a eus. Et toi, alors du coup, tu disais que toi aussi, tu t'es autorisée. Comment tu dis, des maîtresses?
Oh non, parce que des maîtresses, c'est des histoires. Alors non.
Tu diras quoi? Des copines aussi?
Alors non, parce que les histoires sont totalement différentes. Mm-hmm. La première histoire, alors, j'ai été prof dans une petite école privée pendant 2 ans, juste après avoir été diplômé. Et puis, il y a eu, pour des gens qui avaient plus de 18 ans, donc c'était des formations diplômantes, pas des gens qui avaient le bac, enfin bon, des gens qui n'étaient pas des enfants. Mm-hmm. Je devais avoir 25 ans. Alors, et il y a eu un voyage en Italie que j'ai organisé, et puis on est parti, c'était vraiment organisé... c'était à peine officialisé, c'était sous la tente, c'était vraiment organisé comme ça. Ils étaient tous avec leur voiture et moi avec la mienne. Et il y avait une fille qui, visiblement, avait envie, enfin, avec laquelle j'avais la touche qui ne me plaisait pas plus que ça. Mais bon, je m'étais dit, je sentais venir le truc. Et puis, un soir, elle a gratté... sur la fermeture éclair de la tente.
Donc, elle a émis le signal.
Elle a plus qu'émis le signal, elle m'a quasiment sauté dessus.
Ah oui, effectivement.
Et elle
là,
était,
c'était clair.
Elle était surexcitée. Et puis, ça s'est passé d'ailleurs pas de manière très jouissive pour moi parce qu'elle était
trop
excitée. Et puis, ça a été ça. Donc, je me suis dit, bon.
Bon, oui, effectivement, c'est bon.
Et il n'y en a pas eu d'autre, alors, sauf une autre histoire qui est très particulière, qu'il faut que j'explique en détail parce que elle est quand même particulière. Ma femme a des sœurs, de multiples sœurs, puisqu'elles sont 5 dans une famille de 8. Et il y avait une sœur dont elle était très proche, dont j'ai fait la connaissance en 64, 2016, donc 4 mois après avoir fait la connaissance d'Evelyne, et qui était, et donc je suis plus ou moins tombé amoureux aussi à ce moment-là.
Ah oui, ça devait être particulier pour toi à vivre.
Non, non, parce que c'était pas le même niveau.
Oui.
C'était pas une compétition.
Elle te plaisait.
Elle me plaisait. Elle me plaisait. D'accord. Je l'aimais bien. Je la trouvais.
Différente d'Evelyne ?
Avec des points communs. Assez différente, plus libre. Plus... Elle était. Alors, quand j'ai fait sa connaissance, elle était. Elle avait une relation homosexuelle à l'époque.
D'accord.
Et
oui.
J'ai fait sa connaissance. Elle était dans son lit avec sa copine. Qui avait 15 ans de plus qu'elle, qui était très intrépide.
Oui, c'est ça, très intrépide.
Et même un peu pas prudente quelquefois, mais bon. Et donc t'imagines bien, je la vois dans le lit d'une nana, je me dis, elle n'est pas faite pour moi. Mais bon,
depuis 15 ans, en plus, sa copine, ça fait...
Voilà. En plus, c'était une maîtresse femme un peu, donc j'allais pas m'y frotter. Et puis, de toute façon, ça ne m'est pas venu à l'esprit, si tu veux. J'étais avec Evelyne... Point. Elle me plaisait, je l'aimais bien. Et je lui plaisais. Ça, je l'ai su après. Et on a eu. Alors, il y a une chose que tu me permettras de faire, c'est de te montrer les photos de ces deux femmes.
D'accord, bien sûr.
Et que tu vois, que tu imagines ces femmes qui ont justifié cet amour.
Avec plaisir.
Sur les 40 années qui ont suivi, quasiment, on est resté très proches. On a passé beaucoup d'... cette relation avec cette nana là a été un peu compliquée. Et un jour, elle nous a dit, venez me voir. Et puis, on est débarqué chez elle. Elle nous a dit, elle avait préparé un sac. Elle a dit, bon, allez, on monte en voiture. Et elle s'est enfuie.
De chez sa maîtresse.
Voilà.
Enfin, de chez sa copine.
Sa copine. Puis bon, il y avait des choses qui faisaient qu'elle en avait marre. Et puis elle. C'était dans une. Un peu reculé derrière Nîmes. Elle était un peu enfermée là-dedans. Elle voulait autre chose.
Donc vous la faites fuir. Vous l'embarquez avec
on
vous.
On l'embarque avec nous, mais elle nous le dit une fois qu'on est en voiture. Hein. On le découvre. Et puis, donc elle rentre. Elle s'installe. On avait un petit appart dans le 15e. Elle s'installe chez nous. Et reste 2 mois avant de repartir bosser, faire les vendanges. Et puis après, elle s'est trouvée un stage de formation de gestion. Et puis, on est allé la voir à Marseille. C'était à Marseille. Et donc, j'ai un petit film Super 8 de l'époque. Un petit bout de pellicule que j'ai mis sur CD, enfin sur numérisé. Où je les prends, on voit presque rien sur du film Super 8 à l'intérieur, c'est soit tout noir, soit tout blanc, c'est très mauvais. Mais je les surprends au matin, alors elles sont sous leur duvet, parce que c'était vraiment du camping dans une piole, quoi. Et puis elles se lèvent, et puis on voit leurs seins, et puis elles se cachent, et puis voilà, c'est une petite scénette, tu vois, muette en plus, donc qui dure quelques secondes, et puis. Mais qui montre un peu la proximité qu'on a eue. Et cette proximité s'est maintenue puisqu'on a, pas tous les ans, mais au minimum un an sur deux, on passait des vacances ensemble, au moins une semaine, elle venait. Et puis, alors, il y a eu une période où elle a été un peu plus compliquée parce qu'elle a été je ne sais pas trop ce qu'elle était, mais enfin, un peu imprévisible émotionnellement.
Elle était fragile, elle était, tu le décris comment, sensible, vulnérable.
Non, elle était assez solide, mais il y a eu une époque, elle est tombée dans des périodes de mutisme.
D'accord.
Elle ne parlait plus à personne, alors je ne sais pas si c'était une période un peu de dépression.
Oui, c'est ça.
Elle a tenu en plus, elle tenait un métier très prenant, parce qu'elle a tenu un chalet d'accueil collectif. Et puis que ça lui prenait la tête. Donc il y a eu des moments où il y a eu des prises de bec quand même, où on s'est barré après un peu des disputes. Mais bon, on lui a un peu toujours tout pardonné, moi et ma sœur. Et ma sœur était très attachée à elle.
Alors,
elles étaient
pas
très,
ta
très
sœur,
proches.
Ta femme.
Pourquoi je dis ma sœur ?
Sa sœur.
Sa sœur. Elles étaient très très proches.
Donc ta femme et sa sœur étaient très proches.
Voilà. Elles étaient très proches enfants.
Mm-hmm. Elles ont beaucoup d'écart ?
Elles ont quasi un an d'écart.
Ah oui, donc rien du tout, en fait.
Rien du tout. et un an et demi. Et en plus, elles étaient à un an d'écart quand elles étaient au lycée. Alors elles sont allées, elles étaient pensionnaires. Alors elles étaient dans le même dortoir, ah, un lit d'écart. Donc elles ont partagé beaucoup de choses. Même si au niveau du bac, alors l'été de leur bac, elles sont parties au Canada ensemble, par exemple, faire le tabac et des choses comme ça. Et puis après, elles ont mené leur chemin.
Et vous deux, alors, enfin, tu disais que, voilà, que quand tu l'as rencontré, tu as vu cette fille intrépide. Comment ça s'est passé entre vous? Donc, tu dis que tu as appris par la suite qu'elle aussi, tu lui plaisais. Mais
moi, je n'ai pas eu besoin de l'apprendre. Dès que je parlais, ce que je suis un naturel assez plaisantin, ça ne se voit pas forcément tout le temps, mais je fais des blagues, j'aime bien faire des bons mots et ça la faisait rire à chaque fois. Elle était extrêmement bon public, elle me pardonnait tout. On sentait qu'elle était. Elle me passerait tout, quoi, d'une certaine manière. Je suis un peu étourdi, alors ça la faisait beaucoup rire, alors que ça pourrait énerver. Enfin bon.
D'accord.
Elle me pardonnait tout, quoi.
Et donc il y a eu un rapprochement, il y a eu quelque chose entre vous qui a fait justement que tu la mets dans
alors,
ces.
Alors attends, j'y viens.
Ah,
j'y viens parce que c'est une histoire longue. Et triste à la fin. Son couple à elle est allé plus ou moins brinque-ballant.
Donc elle était bisexuelle, si j'ai compris.
Non, pour cette seule expérience-là.
D'accord, c'était sa seule expérience.
Je crois, enfin, j'en sais rien au bout du compte, mais c'est la seule que je connaisse qui est durée, mais je pense. Elle a donc eu. Elle a établi un couple avec un. Dans cette station de ski, une petite station de ski, elle avait pris un petit chalet avant de faire son truc d'accueil collectif, là, qu'ils ont fait ensemble. Disons que ça a assez vite. Pas assez vite, non. Pour des couples, ce serait déjà très loin, mais au bout de 10 ans, ça n'allait plus très bien. Et puis, ils ont songé à se séparer. Ça n'allait plus très bien. Et. En 2005, alors j'avais pris l'habitude vers 2003-2004, on allait marcher ensemble dans les Appas. Et elle aimait beaucoup marcher, moi j'aimais beaucoup ça aussi, en montagne. J'avais pris l'habitude d'aller faire des randonnées avec elle. Et donc on marchait tous les deux. Alors pas forcément toujours tous les deux, quelquefois j'ai emmené mes enfants ou même ma sœur est venue randonner quelquefois avec nous, mais disons que. On avait initié ces petites randonnées montagnardes pendant quelques années ensemble. Et puis après, on est aussi passé des vacances aux États-Unis. On l'avait invitée, elle était venue avec nous, sans son copain, tu vois. Mm-hmm. Donc, on avait quand même une histoire qui circulait bien, tu vois, entre ma femme, moi et elle. Mm-hmm. On avait un peu l'habitude de vivre ensemble.
Donc elle était très présente dans ta vie.
Oui, elle est restée toujours présente dans ma vie. Mm-hmm. Et en 2005, elle a fait une. Alors il y a eu un peu. Elle a fait une rencontre. Elle a rencontré un homme qui, avec lequel pour te peindre un peu la fille, avec lequel elle s'est mise en couple, mm-hmm. mais en maintenant le couple existant. Initiale, c'est-à-dire qu'elle se partageait en deux.
D'accord. Elle avait son conjoint qui était donc à la montagne.
Non, qui était ils avaient leur même, ils habitaient ensemble dans la ville.
D'accord.
Et cet homme habitait dans la même ville.
D'accord.
Elle passait le week-end avec l'un et la semaine avec l'autre.
D'accord. Donc ce qu'on appelle du polyamour.
Du polyamour.
Donc elle avait ces deux hommes dans sa vie.
Ces deux hommes dans sa vie.
Et qui étaient au courant l'un et l'autre de l'existence de l'un
et
l'autre.
Ils l'ont été assez vite, oui, puisqu'ils avaient des amis communs.
Bah, en plus, oui, si tu parles d'une
sans que ce soit facile. Et elle nous a raconté des épisodes où elle rentrait une fois en train et ils se sont retrouvés dans la gare, tous les deux à l'attendre. Et ils étaient tous les seuls deux dans la salle d'attente. Et donc
elle a maintenu ses deux vies conjugales combien de temps ?
Tout le temps.
D'accord.
Jusqu'à ce que l'homme qu'elle avait rencontré en ait marre.
D'accord.
Mais c'était il y a très peu de temps. Tu vois, ça, c'est pas ma sexualité, c'est une autre sexualité, qui m'a touché de près. Puisque en 2005, on se balade ensemble et puis elle me dit, tu sais, François, il faut que je dise quelque chose. J'ai un autre homme dans ma vie, et puis là, quel est le terme qu'elle a employé c'est passionné.
D'accord.
Et je pense qu'il devait y avoir un aspect sexuel qui la satisfaisait beaucoup
aussi
avec,
dans, cet, homme-là,
avec
ouais.
cet homme-là également.
Ok.
Qui faisait le même métier qu'elle. Donc, ils avaient aussi des
accointances. Oui, la passion. Mais toi, t'étais quoi? T'étais son confident, tu penses?
Non, j'ai eu cette confidence-là.
T'as eu cette confidence-là, d'accord.
J'étais pas son confident, non, non. Elle aurait pu me confier des choses, mais le fait est que, hormis pendant... Enfin, on se marrait bien pendant ces balades. On n'était pas confidents, mais on était vraiment copains, quoi.
Mm.
Et puis, elle a dit à des gens après que j'étais la personne avec laquelle elle aimait marcher, quoi. Elle
d'accord.
aimait se promener.
Vous avez ce rôle-là dans sa vie, en tout cas.
Oui. Alors, après... elle et sa sœur sont devenues plus proches encore. Elles ont commencé à s'appeler, à se parler tous les jours au téléphone. Avant, c'était beaucoup plus espacé. Mais ça comblait aussi le fait qu'elle venait un peu moins parce que justement, ces moments de libre, elle les accordait à cet homme-là qu'elle avait
rencontré.
Elle
était très prise entre les deux maisons.
Et au printemps 2017, je pense qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Et il a rompu, il disait, il lui demandait de choisir. Il en avait marre. Et puis, il était prêt à faire beaucoup de choses. Hein.
Donc, ça a duré quand même longtemps, cette histoire.
Ça a duré de 2005 à 2000, ça a duré plus de 10 ans.
Ah oui. Waouh. Oui, c'est vrai que c'est une autre sexualité de s'imaginer entre deux vies conjugales comme ça.
Et alors, ça a duré plus de 10 ans. Et en 2005, en 2017,
donc
printemps
lui,
2017, elle rompt. Iron, et bon, elle se retrouve avec dans l'eau. Et puis, elle a aussi. Elle avait eu des premiers petits trucs, mais qui étaient autre chose. Puis, elle a eu une douleur dans au nerf sciatique, et qui ne passe pas. Et elle prend du doliprane, elle fait avoir des acupuncteurs, des massages, et puis ça ne passe pas. Et puis, elle prend de plus en plus de doliprane. Et puis. Elle dit, oh là, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai peur de plus pouvoir marcher. Et puis, au printemps 2007, elle dit, ça ne va pas. Bon, je fais un dernier voyage, ça va peut-être être le dernier pendant lequel je pourrais marcher. Elle part avec son mari en Islande. Elle refait un voyage en Islande qu'ils avaient déjà fait, qu'elle avait beaucoup aimé. Et ils rentrent. Et puis, nous, on se dit, on loue une maison. Et puis, on les invite, comme on faisait souvent. On l'invite. Alors, c'est elle qui choisissait si elle venait toute seule ou avec son mari. Et puis, la veille on part le 30 juillet et elle devait venir le 1er. Et le 29 juillet, elle téléphone à sa sœur et elle lui dit qu'elle a un cancer des os.
Donc elle avait fait tous les examens et les médecins avaient posé leur diagnostic.
Elle a fait un examen, ils avaient fait une radio et sur la radio c'était un compte rendu d'examen multiple, comment on dit, des métastases innombrables.
Donc ça c'était en juillet 2017.
Juillet 2017. Et donc là, ils viennent. Bon, elle a, enfin non, l'examen et les métastases innombrables, c'est 15 jours après.
Oui.
Là, elle sait qu'elle a un cancer, c'est tout.
Elle ne sait pas encore
l'étendue. Elle sait qu'elle a un cancer, elle sait que c'est un cancer secondaire et elle sait que c'est fatal. Donc, c'est très triste, mais on passe quand même des vacances. Elle marche avec du doliprane et en s'aidant avec ses bâtons, mais elle marche, on fait des balades, qu'on fait pas trop compliquées. On passe une 15 bonnes journées agréables. Mais bon, on l'a dit un petit peu à mes enfants. Alors, elle a été très, très proche. Une petite chose à dire, c'est que quand mon fils est né, elle n'a pas eu d'enfant. Hein. Elle a tout de suite rappliqué, elle a tout lâché. Et il est né en avril, c'était la fin de la saison. Et elle a passé 15 jours chez nous à aider Evelyne, à s'occuper de tout. Ce qui fait que moi, je me suis absenté. J'ai repris la suite après. Mais bon, là, je me suis dit, bon, allez, je vais m'absenter. Je vais
elle
laisser
est venue
toutes les deux ensemble
pour
profiter de cet enfant.
Ce bébé, ouais.
Et après, elle l'a eu très souvent. au mois d'avril, elle le prenait un mois, il passait un mois à la montagne. D'accord. On lui faisait quelquefois sécher l'école pendant 15 jours.
Ah ouais, elle avait une place importante. Quoi.
Voilà. Et cet enfant a été un petit peu le sien aussi.
Oui.
Et ils sont restés très proches. Et puis, je parle de ça parce que...
Donc, vous passez ces vacances.
On passe ces vacances, mes enfants viennent. Voilà.
Vous en parlez aux enfants.
Et puis après, bon, le diagnostic s'aggrave. Elle a encore, à cette époque-là, dans l'idée qu'elle va peut-être vivre un an ou deux. Et moi, je crains que ce soit plus rapide. Et puis, avec ma femme, on se dit, ben, faut qu'on soit là. Donc, elle nous dit, mais non, repartez chez vous, ça va. Et puis, au bout de 15 jours, on revient quand même, on prend un Airbnb et puis on s'installe chez elle. Elle est maltraitée contre la douleur. La douleur est forte. Donc, on est là et puis on se succède aussi parce qu'on a un peu le boulot qui nous reprend. Bien qu'on se soit donné tout le temps qu'il fallait pour passer un maximum de temps avec elle, on se succède et puis à un moment donné je lui dis, c'est extraordinaire parce que son mari était parti, moi j'étais avec elle, on passait des journées ensemble à parler, je lui lisais un livre, je la faisais beaucoup rire, alors j'évitais de la faire trop rire parce que c'était douloureux quand elle riait, mais donc on passait de bons moments ensemble, puis je lui dis à un moment donné, écoute, ces moments-là peut-être qu'on les aurait pas passés ensemble si la vie avait continué comme elle était, parce que peut-être que tu te serais éloigné parce que tu avais rencontré d'autres gens, et puis je lui dis ces moments qu'on passe là font que ça fait partie de ta vie comme ça fait partie de ma vie, ça ne pourra pas être soustrait à ta vie. Je lui dis, je rajoute pas même si sa fin est proche, et comme ça pourrait pas être soustrait à ma vie. Et je crois qu'elle comprend quelque chose, elle comprend que c'est le moment de où il faut qu'elle profite et qu'elle de ses derniers moments, tu vois. Et alors là, il s'installe une relation qui est en fait le quasiment l'aveu de cet amour entre nous, ou des massages, si tu veux, qui étaient là pour la soulager. Alors reste des massages pour la soulager tant qu'elle est chez elle. Et puis alors il y a un peu des crises. Violente avec son mari et à un moment donné on réussit à la faire partir en soins palliatifs où elle a une chambre dans laquelle il y a un deuxième lit, on peut s'installer, on peut pareil se passer la nuit, passer du temps avec, et on finit par avoir je passe la nuit avec elle dans son lit d'hôpital relevé, et on finit par avoir si tu veux une proximité sensuelle qu'on peut assimiler. Il est hors de question d'avoir des vraies relations sexuelles, mais qu'on peut, en tout cas, je l'ai caressé, je l'ai essayé de lui donner. Alors, au début, je lui disais, tu vas voir, il y a un truc pour vaincre la douleur, il faut s'attacher aux sensations, mm-hmm. aux petites sensations, et essayer de leur donner toute leur présence et toute leur importance. Et elle m'a accordé tout ce que je voulais, et j'ai redécouvert. Alors là, ce qui est absolument extraordinaire, c'est une sorte de vertige, qui est le vertige que j'avais eu lors de ma toute première rencontre avec ma femme, c'est-à-dire le vertige qui est d'accéder au corps d'une femme, mm-hmm. qui donne son corps, quoi,
qui
fait une confiance absolue. Et donc, je me souviens très bien de cette nuit où elle était accoudée à son lit, où je relève sa chemise de nuit, et où elle se retrouve nue et où je lui fais des massages avec de l'aloe vera et je lui masse tout le corps, donc c'est pas compris la poitrine. Et puis, alors je ne sais pas ce qu'elle pouvait ressentir parce que la douleur était quand même très présente, mais malgré tout, elle a ressenti du plaisir.
Ça a dû être pour elle une parenthèse dans ce chemin de souffrance qui a dû faire beaucoup
jusqu'à
de
la fin, c'est-à-dire que même à la fin, si tu veux, elle ne voulait plus que moi avec elle.
D'accord.
Elle ne voulait plus pas entendre parler de son mari.
Oui, parce qu'il a pas su.
Il
n'a pas su.
Ma femme me dit qu'elle regrette beaucoup de ne pas avoir su installer la proximité que j'ai pu installer avec elle.
Oui.
Après, et que ça lui manque.
Comme tu dis, il y a eu toutes ces années où ces marches, ces échanges, ces discussions, ces rires, enfin, c'est fragile et c'est vrai que peut-être c'est ce qui a créé aussi ce lien qui, à la fin de son chemin à elle, c'est ce
qui s'est épanoui au dernier moment.
Et qui était la main qu'elle avait envie de tenir.
Ouais. Voilà, voilà. Et je crois qu'elle a réalisé que, ben voilà, que c'était la dernière chose qu'elle pouvait vivre et qu'il fallait la vivre.
Et avec toi.
Et avec moi, oui, c'était ça.
Donc tu l'as accompagnée sur toute cette période-là.
Voilà, et elle est morte chez nous.
D'accord. Vous avez, elle est partie des soins palliatifs,
oui,
et elle est revenue.
Elle est revenue, donc elle a fait un voyage de 500 km en ambulance. Mm-hmm. Elle est revenue chez nous parce qu'on avait la place et que bon, son mari était là les deux derniers jours quand même.
C'est très émouvant en tout cas.
Et voilà, donc c'est le deuxième. Ouais. Amour de ma vie, parce que je le considère vraiment comme un amour.
Ouais, je comprends.
Et bon, alors après, j'ai dit beaucoup de choses. Alors après, on peut parler peut-être de qu'est-ce que c'est que la sexualité d'un homme de 60
aujourd'hui,
ans, puisque peut-être beaucoup de gens
se poser
la question. et bah, effectivement, une sexualité d'un homme de 60 ans, c'est tout à fait la même sexualité qu'un homme de 40 ans. Le désir est le même.
C'est ce que tu l'envie, avais l'air de dire.
L'envie, le besoin même de... Mmh.
Charnel, de faire l'amour, etc.
Charnel, de faire l'amour, et le besoin même d'érotisation de la vie en général. C'est-à-dire, d'ailleurs, le plaisir de côtoyer des femmes qui sont désirables, le plaisir d'éprouver du désir. On n'éprouve pas du désir pour toutes les femmes qu'on croise dans la rue. C'est pas,
ce serait fatigant, sinon.
Ce serait fatigant.
Non, mais je vois ce que tu veux dire.
Ce serait plus du désir. Mais disons que... Alors, et j'en ai... On parle quand même pas mal de notre sexualité avec ma femme. Et donc, je lui ai dit le rôle de l'érotisme et de l'érotisation qui était important pour moi et que... Alors, elle rouspète, elle dit... bon, elle est assez féministe, hein, donc elle dit... mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, notamment, il y a tout ce qu'installe comme dispositif érotique, le vêtement sur le corps d'une femme. Alors, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Si tu me désires, tu me dis, la meilleure manière d'avoir accès à mon corps, c'est quand je suis nu, et puis voilà, et tu désires mon corps nu. Et elle résiste à l'idée
que les fameux bas que tu avais vus,
voilà, qu'un corps qui se dévoile, qu'un corps qui n'est qu'entrevu, qui puisse créer un désir spécifique, une érotisation
presque
spécifique,
presque plus fort que le
presque
corps
plus fort. Ben, c'est-à-dire que ça a été tellement décrit et écrit que c'est une sorte de chose convenue.
Mm-hmm. Et donc à 60 ans, ça ne bouge pas, ça.
Ça ne bouge pas, absolument pas. Ça ne bouge absolument pas. Et il y a aussi une chose qui est très importante quand on vit avec une femme pendant autant de temps, c'est que cette femme de 60 ans, c'est pas une femme de 60 ans, c'est une femme qui a eu 18, 20, 30, 40, 50, 60, c'est tout un ensemble. Mm-hmm. Et quand on voit aussi, évidemment, la fille de 18 ans que
qui
celle de 30,
dans l'amphi,
de 40,
ça,
voilà, elle est toujours là.
Elle est toujours là, ouais.
Elle est toujours là. Donc, le rapport, alors c'est pour le rapport au corps vieilli, si tu veux, il est très différent.
Oui, parce que ça, c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où on n'autorise pas la femme que la femme vieillisse. Alors là, on est dans un mouvement.
De toute façon, qu'on l'autorise ou pas, c'est sans doute vrai aussi pour moi. C'est-à-dire que une femme que je découvre à l'âge de 60 ans, enfin peut-être.
Tu regardes pas les femmes de 60 ans ?
Je regarde quand même les femmes plus jeunes. Mais j'en regarde sans doute de 60 ans. Non, mais il y en a. Mais c'est vrai que, à un moment donné, l'âge s'impose.
Je comprends.
Passer 60 ans, à 65 ans, il y a quand même on le prend frontalement. Ce qui n'est pas du tout le cas avec une femme avec laquelle on vit.
Oui, parce que tu.
Depuis toujours.
Tu vois autre chose.
On voit autre chose. La perspective est beaucoup plus profonde. Mm-hmm. Donc, moi, je dirais que c'est le grand avantage de vivre avec la même femme pendant...
C'est vrai. C'est que tu peux choisir en fonction des...
On peut choisir entre toutes les femmes
moments.
Qu'on a connues.
C'est ça. C'est bien. Ouais, chaque moment à son âge, c'est pas mal. J'avais une question à te poser que je pose souvent. Tu as un lien avec la pornographie. Tu regardes de la pornographie.
Oui.
Oui.
De manière espacée, mais j'ai des crises comme ça.
Des moments... Ah, tu dis crise, c'est intéressant.
Oh, oui, oui, c'est des crises. Est-ce que ça correspond? Alors, aujourd'hui, il faut parler aussi de notre sexualité plus espacée. Mm-hmm. Et elle s'espace aussi parce que ma femme a des problèmes de santé. Ses accouchements difficiles lui ont causé des prolapsus. Enfin, voilà. Et elle a été opérée. Et puis... puis après, elle a eu des cystites récidivantes. Donc voilà, on navigue un peu entre tout ça, ce qui fait que les choses peuvent être difficiles à caser, ce qui fait que les rapports sexuels peuvent être relativement espacés.
De fait.
Et ce qui fait que... ce qui fait que voilà. Mais moi, je prends aussi beaucoup de plaisir à lui donner du plaisir. Et par exemple, là, j'étais parti en vacances sans elle parce que j'étais parti avec ma mère pendant une semaine. Et puis en rentrant, ben, ça fait un bien fou d'avoir été absent l'un à l'autre pendant ne serait-ce que 8 jours.
C'est ce que tu dis, c'est que vous avez été toute votre vie, tout le temps ensemble. C'est 44 ans fois 2, en fait. Oui. C'est pas les journées et les nuits.
Voilà. Et donc, quand je suis rentré, on a eu beaucoup de désirs l'un pour l'autre. Donc, tu vois qu'il ne suffit de pas grand-chose pour le faire renaître. Mm-hmm. Et donc, mais bon, elle était dans une période, encore une période à problème. Donc, il a fallu que je me satisfasse à lui faire des caresses, ce qui me donne beaucoup de plaisir.
Aussi, heureusement. D'ailleurs.
Heureusement. Ouais. Et voilà. Et donc, l'autre chose qu'il faut que je dise, c'est quand même que je bande moins et qu'il faut que je m'arrange pour caser une petite pilule de Viagra, une demi-pilule de Viagra. Quand le besoin s'en fait sentir.
Vers quel âge tu as ressenti le besoin d'utiliser du Viagra?
Oh, il y a 4 ans.
Oui, quand j'avais fait le dernier épisode de la saison 1, c'était, j'avais fait venir un médecin sexologue qui expliquait qu'effectivement, il donnait les statistiques, je ne les ai plus en tête, mais bon, ce n'est pas ton cas, mais les messieurs passés 55 ans qui ont du surpoids, qui ont fumé, qui ont
abusé, pas du tout mon cas.
C'est catastrophique. Et effectivement, à partir de 60 ans, il y a quand même une baisse...
De l'endurance, tout simplement. Ce qui est curieux, parce que j'ai essayé d'en parler à mon médecin, mais bon, ça ne l'intéressait pas du tout.
Alors, il y a des médecins spécialisés,
Je lui disais que les érections du matin restent aussi vigoureuses.
Ah oui.
Ouais, il n'y a pas vraiment de changement.
Ah oui.
Mais... elle dure peut-être pas si longtemps que ça, mais les érections liées au désir
sont beaucoup. Oui.
Sont durent pas tout à fait assez longtemps. En tout cas, pour moi, puisque il faut quand même un certain temps pour que l'éjaculation arrive. Mm-hmm. Et mon plaisir sexuel est quand même beaucoup lié à l'éjaculation.
Oui, donc du coup, effectivement, oui.
Alors, ce qu'il faut que je dise, c'est que ma femme, par contre, a un plaisir très rapide et qu'elle se plaint souvent que ça aille trop lent, que ce soit trop long.
C'est étonnant, parce que souvent, on ne va pas faire de généralité, mais...
La généralité veut que les femmes disent que l'homme est trop rapide.
Ah oui, donc elle arrive à jouer rapidement. Alors, parce que tu la connais bien aussi.
Non, parce que je pense qu'elle est très mentale et qu'elle pourrait jouir quasiment en pensant, en y pensant.
D'accord. Ah oui, alors qu'effectivement, toi, c'est peut-être plus mécanique, plus long et que tu as
voilà, il y a un aspect mécanique.
Oui,
d'accord. Et voilà. Donc ça, c'est les petits détails.
Non, mais c'est vrai qu'on a... J'ai des questions et effectivement, quand j'avais fait cet épisode spécial, il y avait pas mal de gens qui se posaient des questions sur la sexualité. Le après, ça donne quoi? Et c'est vrai que quand je demande à des jeunes gens de 25 ans...
Oui, mais j'imagine qu'un homme de 62 ans, ils disent, il doit...
Il y en a pour qui, à 50 ans, c'est terminé.
Mais oui, non, mais ça, c'est...
Voilà. Mais c'est vrai que le jeune homme que tu étais peut-être à 20 ans ne se posait pas ces questions-là. Donc toi, aujourd'hui,
non, je me posais pas ces questions-là.
À 62 ans, ce sera quoi ta sexualité demain? Quelle sera-t-elle?
Je ne l'imagine pas trop pas différente... En tout cas, je sais que...
Non. Là-dedans, enfin dans la tête,
là-dedans,
c'est toujours pareil.
Là-dedans, ça ne bougera pas, oui.
Mais ça, c'est rassurant, je trouve, de
je
garder cette...
Je sais que le plaisir que j'ai à donner du plaisir subsistera. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'à un moment... Je constate que le volume de l'éjaculat diminue progressivement. Alors, je sais que sur Internet, il y a beaucoup de publicités augmentées.
Ah oui.
Bien sûr, Je n'y donne aucune suite à ces publicités, mais je me demande si à un moment donné ça s'arrête. Voilà, c'est une chose que je ne sais pas. Ah. Si la capacité de produire le liquide spermatique diminue et puis fait qu'à un moment donné, il n'y en a plus.
Ah, c'est intéressant.
Parce que avoir une érection est une chose, mais la conclure par une éjaculation en est une autre.
Ok, donc tu constates pour le moment et tu n'imagines pas trop.
Oui, je suis vraiment dans le constat. Donc, ce que je constate aussi, c'est que après 4 ans, l'âge où je prenais, au début, j'ai pris les pilules de Viagra, ça me donnait mal à la tête, oui. Et puis c'était pas très confortable. Je les coupais en deux, ça me suffisait largement. Maintenant, je les prends en totalité, enfin la pilule sans la couper en deux, et ça me cause plus de désagréments. Donc je me dis, oulala, est-ce qu'il faut les augmenter les doses?
Mettez-moi trois boîtes.
mettez-moi trois boîtes. Et voilà, sans ça, voilà, il n'y a pas de désintérêt pour la sexualité du tout.
C'est intéressant. On va arriver à la fin. Ouais. Ce que je demande aussi à mes invités, c'est de conclure cet entretien par... alors, je dis le mot de la fin, mais les consignes sont plus souples. C'est la phrase de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour terminer tout ça?
Il y a des choses que je pourrais dire aux hommes, c'est-à-dire que c'est que... Oui, que la capacité d'être désirant est source de bonheur. Et c'est un facteur de réussite du couple. Et puis, aux femmes, qu'est-ce que je dirais? Ben, je dirais que la libido des hommes est aussi constituée d'un tas de faits culturels qui structurent leur imaginaire, qu'il faut aussi savoir jouer avec, quoi. Et puis les accepter un petit peu parce que bon, cette construction culturelle évoluera, elle n'aura peut-être plus rien à voir dans le futur avec ce qu'elle est maintenant, mais en tout cas bon, bah, il faut aussi savoir jouer avec la manière dont les hommes érotisent elles-mêmes, donc et pas le craindre, quoi, d'une certaine manière, c'est ce que je dirais.
Super, bah, merci François pour tout ça. Merci beaucoup.